D'émotion avec cette dame de Volgograd qui chante cette chanson, vieille chanson française. Ce sera une des rencontres qu'on aura à partir de vendredi. Vendredi, on repart sur les routes du monde, vendredi 21, et on ira en Pologne, à Lublin, retrouver des amis tchétchènes rencontrés en 1996, ça faisait 7 ans, bientôt 7 ans qu'on les recherchait et qu'on les a retrouvés, on va les retrouver ensemble à partir de vendredi. Et puis ensuite on ira à Volgograd, ex-Stalingrad, à l'occasion du 60e anniversaire de la bataille de Stalingrad, où on rencontrera des personnes comme cette femme qu'on vient d'entendre, dans ce club de vétérans de Volgograd. Alors là, évidemment, vous voyez pas, mais il faut imaginer le corsage de cette babouchka avec des décorations. Plein le corsage avec des messieurs qui chantent avec elle et qui ont aussi au revers de leur veste des quantités de médailles. Ils ont pas moins de 80 ans et ils ont été des combattants ou des témoins ou ils ont été impliqués dans cette bataille de Stalingrad, l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, l'une des plus héroïques aussi, puisque c'est là qu'en février 1943, l'histoire a basculé. Les armées nazies et alliées de l'Axe ont reflué. Le monde a basculé à Stalingrad. Et aujourd'hui, eh bien, 60 ans après, ceux qui ont vécu cela, nous le raconterons. Ce sera une occasion pour nous de rentrer, de comprendre un peu plus la fameuse âme russe, qui est un cliché, mais comprendre qui sont les Russes. Si on ne comprend pas Stalingrad, on ne peut pas comprendre nos amis russes. Et surtout, c'est très difficile de comprendre notre histoire actuelle, ce qui nous sert de socle à notre mémoire, à notre conscient collectif, si on n'a pas ce moment incroyable présent à l'esprit. Voilà, aujourd'hui, on continue avec François Ruffin, avec le livre dont on a parlé hier, Les petits soldats du journaliste, parce que vous avez été, qui sort ces temps-ci aux éditions des Arènes, avec ce jeune effrayé, moulu étudiant en journalisme, parce que ça, vous allez voir, il y a eu beaucoup de réactions sur le répondeur de la base, j'y suis, visiblement, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous préoccupe beaucoup, que la question des médias, de l'omerta des médias, de cette nomenclature qui continue de tenir, boulonner cet univers, ce soi-disant contre-pouvoir, d'autant plus qu'on annonce la sortie du livre de Pierre Péan et Philippe Cohen, La face cachée du monde, une longue enquête sur le journal Le Monde, dont évidemment nous aurons l'occasion de parler. On va se pencher sur cette histoire. Mais donc, vendredi, on part sur la route, Loublin, Volgograd, Moscou et la suite, avec aussi des rencontres de deux jeunes d'aujourd'hui. Et la dame qu'on vient d'entendre, eh bien aujourd'hui elle a 80 et plus, mais il y a 60 ans, elle avait le physique et la voix de ces toutes jeunes filles qui chantent aujourd'hui en hommage pour ces vétérans.
Люблю смотреть вдвоем, я с дедушкой альбом. Там, где на фото он одни со мною лет. На лес и облака он смотрит свысока. Любимый сын гвардейского полка. В одной руке букет, другой моя рука. Вперед, победный май, за нами вслед шагай, походкою гвардейского полка. Пусть день победы дарит радость людям всем, пускай припомнит дед военный. Уставились на нас. медалями звенят, смотрят на меня. А я гляжу слегка на мир весь высока. Я правнучка гвардейского полка.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, les petits soldats du journalisme, deuxième couche.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonsoir. Paix. Période entre deux guerres, généralement composée d'un après-guerre et d'un avant-guerre. Ça vous va?
Après avoir entendu trop peu, à mon avis, ces journalistes, Daniel Mermet, je suis vraiment complètement catastrophée. On vend du papier comme on vend du poireau, dit un de ses anciens élèves de journaliste. Eh bien, moi, je vais dire, en tout cas, à François Ruffin, je ne sais pas s'il écoutera l'émission demain, qui continue à se battre, même si on le traite de taliban ou de parasite social, mais qui continue à se battre, et en Picardie, ça c'est certain. Ça ne doit pas être toujours facile, parce que je crois qu'avec les électeurs qu'il a autour de lui, ce journal peut-être ne se vend peut-être pas autant qu'il le voudrait. Je savais que les journalistes, c'était des gens qui sortaient de familles certainement aisées, mais alors, vraiment, il y a beaucoup de travail à faire.
Oui, c'est ce qu'on ressent tous, hein, nous. Vraiment, c'est lamentable, et bravo à Daniel Mermet de parler de ce sujet. Il va encore se faire des copains. Mais enfin, bon, c'est bien. Faudrait la suite, là. Il nous en faudrait pour la semaine, là, interviewer d'autres journalistes.
Il me vient une phrase, puisque il disait on vend des yaourts comme on vend des poireaux ou je ne sais pas quoi. Et l'on vend, pour le journaliste, peut-être que ça pourrait s'écrire V-E-N-D, mais peut-être V-E-N-T aussi, comme du vent du qui passe, voilà.
Et ben voilà, illustration d'un malaise. Vos réactions très nombreuses sur le répondeur de la base JQ au 01 56 40 37 37. On va consacrer presque l'émission entièrement à vos réactions sur ce sujet et sur d'autres sujets aussi. Et puis on va retrouver François Ruffin, ses collègues Myriam et Jérôme, mais aussi Serge Halimi, parce qu'ils ont pas tout dit hier. il y a des on est hier soir. On avait senti avec des remords, on aurait dû faire entendre ci et ça, etc. Aujourd'hui, on prend le temps et on va revenir donc sur certaines de leurs propos, de leurs analyses et de leurs propos. Donc, voilà. Et alors, d'autres messages sur d'autres questions, mais sur le même répondeur de la base. Si j'y suis, je rappelle encore une fois le numéro 0156 40 37 37.
Oui, bonsoir. Donc, je vous laisse ce message, car il est quand même un peu insupportable d'entendre un très libéral défenseur de la politique de Sharon, cette personne de Grenoble là, s'emparer du très libéral micro tendu par Daniel Mermet pour proférer de graves accusations d'antisémitisme. C'est quand même un peu fort. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il verrouille à la fois le territoire et les discours. Tant qu'à faire. Donc celui qui dénonce les exactions de la politique israélienne est un antisémite. Ce monsieur a l'art de se donner le beau rôle et de se décharger sur les autres du fardeau de la politique israélienne. Hein, c'est sûr que se voir en bourreau et en censeur n'est agréable à personne. Donc comment faire pour s'en débarrasser de sentiments? Eh bien, ce n'est pas le scandale de la politique israélienne qui est responsable du développement de l'antisémitisme, ce sont ceux qui la critiquent. Il fallait y penser. Et je suis tellement libérale, je le prouve, en les laissant s'exprimer en Israël et ailleurs. Mais ne m'empêchez pas de dire que ce sont eux les responsables de l'antisémitisme. Moi, je voudrais lui donner un conseil à ce garçon. Ne serait-il pas plus simple d'arrêter d'assumer la politique du pire menée par Sharon et d'imiter le geste de paix de ses frères israéliens envers les Palestiniens?
Je suis juive, ma mère vit en Israël. Je n'accepte pas les massacres quotidiens d'enfants, de femmes palestiniennes par l'armée ou les colons israéliens. Je n'accepte pas non plus les projets de transfert, de déportation des Palestiniens hors de leur terre. Je ne supporte pas de lire tous les jours la mort d'enfants, de femmes, d'hommes, l'arbitraire des arrestations, pas plus que les attentats kamikazes.
Je suis française, ni juive ni arabe, mais je pense que les enfants palestiniens, israéliens et tous les enfants du monde sont l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi nous nous proposons de créer à Cherbourg une association, Shalom, Paix, Salam, association existant à Caen depuis 2 ans. Créée par un groupe franco-judéo-arabe, elle a pour but d'aider à instaurer une paix juste et durable en Israël et Palestine, en collaboration avec des associations israéliennes et palestiniennes. Une première réunion aura lieu vendredi 21 février, 18h30, au grand salon de l'hôtel de ville de Cherbourg. C'était Liliane.
C'était Marie, à Cherbourg. Bonsoir.
Voilà, touchant duo sur ce message, et puis le message précédent, des réactions, une réaction à une réaction d'un auditeur suite à l'émission avec Michel Warchawski et Michel Siboni sur à contre-cœur un florilège de voix dissidentes d'Israël. Mais on a passé des messages qui étaient très opposés à la démarche de ces dissidents israéliens, mais au moins a-t-on pu se parler, et on continuera tant que on ne tombe pas dans l'insulte ni dans la condamnation a priori. On continuera de parler en essayant, si c'est possible, de dépassionner un tout petit peu ce sujet. Cette controverse exacerbée au sujet du Proche-Orient, c'est une illusion dans laquelle je me complais. Voilà. D'autres messages avant de retrouver les joyeux journalistes et les petits soldats du journalisme qui nous attendent.
Sur France 5, samedi 15, Gaïa, Mali, alerte aux pesticides. Dans le journal Que choisir, page 16. En France, ça se passe en France, le bouillon de 11 heures, en théorie strictement encadré, les produits épandus par les cultivateurs sur leurs champs contiennent tout et n'importe quoi, mélange de substances incompatibles, antiques insecticides interdits depuis des lustres, détergents et solvants industriels. Moi, j'ai travaillé comme ouvrier agricole, et le lindane qui contient du DDT, c'était strictement interdit, et ça se pulvérisait à tout va sur les animaux en élevage ovin. Est-ce que ça intéressera un jour France Inter, ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement?
Ils s'en foutent, ces Américains. Ils veulent faire la guerre à ceux qui ont inventé l'écriture. Peut-être qu'ils ne savent pas que l'Irak, c'est la Mésopotamie. Je m'appelle Emmanuel et je suis en CE2 à Toulouse.
Voilà, c'était mon fiston. Il s'appelle Emmanuel et il a trouvé ça tout seul. Merci.
Voilà, salut Daniel, salut les écouteurs de là-bas si j'y suis. Je vous téléphonais là pour vous parler un petit peu de notre petit groupe là. C'est au lendemain du premier tour des élections présidentielles de 2002 que ce petit groupe s'est spontanément formé sur le canton de Zézénobre. C'est au sud d'Alès, à peu près 10 km. Et aujourd'hui, face au danger d'une guerre dont une écrasante majorité de citoyens, de citoyennes et on peut même dire d'habitants de notre planète se positionnent clairement contre. Eh bien, on se retrouve chaque semaine, là, on discute. Les mots qui déterminent notre action, c'est information, réflexion, impression, diffusion. Impression, c'est photocopie, hein, c'est simple. Voilà, alors j'appelais parce que on organise un petit référendum, là, sur la commune des Mages. Ça aussi, c'est autour d'Alès, là, c'est 13 km au nord, cette fois. Et c'est organisé, donc, par nous, le collectif Initiative Citoyenne, avec le parrainage de Monsieur le maire, et il concerne tous les électeurs de la commune, hein, tout le monde, tous les gens, voilà, ils vont pouvoir venir voter. Voilà, c'était pour vous dire ça, puis peut-être que ça peut donner des idées à d'autres, voilà, on a fait notre petit boulot, là. Allez, salut!
Dans un an, vous serez journaliste. Vous entrerez dans ce que j'appelle le complot de famille, c'est-à-dire des règles qui peuvent scandaliser les gens. Mais bon, c'est comme ça que la machine fonctionne. Une phrase prononcée par un enseignant du centre de formation des journalistes, une école prestigieuse à Paris qui forme des journalistes. Une phrase notée par un des élèves, François Ruffin, des étudiants qui maintenant en est sorti diplômé, mais qui pendant 2 ans, a fait un travail de journaliste à l'intérieur d'une école de formation des journalistes. Il a pris des notes, il a enquêté, il a fait un travail d'investigation. Et ça a donné un livre qui fait grand bruit, Les petits soldats du journalisme, qui sort aux éditions Les Arènes. Grand bruit, en tout cas, sur le répondeur de la basse suite, mais pas seulement. Certains étaient tout à fait stupéfaits de la façon dont des grands journalistes ont été formés, les plus prestigieux en France, Patrick Poivre d'Arvor, David Pujadas, Pierre Lescure, François-Olivier Gisbert, Laurent Geoffrin, ont tous été formés par cette école. Il faut dire qu'il y a à peu près 37 000 cartes de presse en France et que c'était que 12%, je crois, ne pas trop me tromper, des journalistes ont fait des écoles de journalistes, mais les plus prestigieux, les plus célèbres sont passés par cette école, et cette école fait aujourd'hui modèle, et elle est la cible de ce livre de François Ruffin. Donc on en a parlé hier, on va retrouver aujourd'hui nos participants, dont François Ruffin. Mais évidemment, ce qui était intéressant, c'était vos réactions sur le répondeur de la basse UGSU au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, comme ça fait du bien d'entendre la vérité sur nos médias mensonges, aux ordres du fric et des pouvoirs en place. Comment on forme nos futurs journalistes à devenir des valets, des soumis, comme leurs aînés hyper friqués? Quand tu vois que le rapport 2002 de Reporters sans frontières est parrainé par Vivendi, Universal, la FNAC, Fino, Lagardère, etc., etc., et c'est eux qui défendent la liberté de la presse, c'est à pisser de rire. Quand tu vois la publicité de Reporters sans frontières avec la tête d'Ockrent, mort une balle dans la tête pour avoir fait son métier de journaliste, là encore, c'est à mourir de rire. Seul le MEDEF porterait le deuil de ce genre de journalisme, comme le dit PLPL. Heureusement qu'il y a des petits journaux de résistance, comme PLPL. Et oui, j'en fais de la publicité. Avec humour grinçant, des super dossiers démontent la presse, les radios, la télévision, et tous ces journalistes aux ordres puissants et du mensonge.
Oui, bonjour. Je vous appelle à propos de l'émission là sur François Ruffin et les petits soldats du journalisme, donc un bouquin que j'ai avalé aussi très rapidement, hein, parce que c'est son délect. Je trouve que quand même l'émission a pu passer sur le formatage idéologique construit à la base par les pressions financières des grandes entreprises de presse, des patrons, sur l'école. Donc qui dit à chaque fois que si on formate pas, si le centre ne formate pas des élèves soldats au discours libéral, en fait, les fonds sont sucrés, hein. Et donc ce choix idéologique construit à la base financièrement, on le retrouve dans l'angle de l'information, en fait. Donc c'est un discours partisan formaté, un angle pro-gouvernemental. Et puis bien sûr, dans toute caserne, il y a des élèves, donc on appuie parfois un peu très fort sur l'angle pro-gouvernement, pro-patron, etc. Parce que, comme dit Ruffin, justement, quand un ouvrier a la parole, c'est trop politique et engagé. Quand un patron a la parole, c'est de l'économie. Et c'est pas du tout engagé, quoi. C'est comme ça que la presse, la grande presse, aborde la question.
Je viens d'écouter ta fin de ton émission, donc tu parles de Paul Valéry, et je pense qu'on est dans une soi-disant société d'information et de médias, on devrait tout savoir, et on s'aperçoit que plus le progrès avance, plus l'information recule.
Oui, Hervé, je viens d'entendre l'auteur des Petits Soldats du journalisme. Moi, pour ma part, je crois pas qu'il y ait de malhonnêteté intellectuelle chez les journalistes, et que ce qui pourrait passer pour du dilettantisme, ça tient essentiellement aux contraintes liées à la forme de l'information, qui, quoi qu'on en pense, est un spectacle quotidien avec des règles qu'il faut respecter pour l'alimenter, malheureusement, sinon c'est la faillite. Je dirais qu'une façon générale, il ne faut pas confondre une rédaction de journalisme avec le CNRS, où on fait des grandes enquêtes bien informées et puis on a le temps. Et je conseillerais tout simplement à cet auteur un peu naïf de lire Le savant et le politique de Max Weber, ça coûte pas cher, et puis ça évite de réinventer le fil à couper le beurre ou d'enfoncer les portes ouvertes. Voilà, au revoir.
Alors, Le savant et le politique, Max Weber, voilà ce que nous conseille Hervé, à tous d'ailleurs, et notamment à François Ruffin, l'auteur de Les petits soldats du journalisme, qu'on retrouve avec, il n'est pas seul, il est avec Myriam Greuter et Jérôme Gautret, qui sont sortis en même temps que lui de cette école, c'est-à-dire la dernière promotion de cette année. Et puis il y a aussi Serge Halimi, journaliste au Monde diplomatique. Myriam, Jérôme, vous sortez de cette école, vous sortez du CFJ tous les deux. Pourquoi vous y êtes entrés?
Moi, j'y suis entrée parce que j'avais envie d'être journaliste pour être utile. Et dans tous les stages que j'avais fait avant d'entrer dans l'école, on m'avait dit « fais-le ». Un peu pragmatiquement, ça t'aidera, ce sera quand même un petit passeport, ça te prémunira pas contre le chômage, mais ça t'aidera un petit peu. Mais en revanche, on m'avait averti à chaque fois, que ce soit à l'étudiant, que ce soit au monde économie, en me disant, les élèves qui sortent des écoles, on les a vus, ils sont prétentieux, et surtout, ils écrivent tous de la même manière. Et ça, ce sont des avis de professionnels, de gens qui n'ont pas de dents particulières contre le CFJ. Et je trouve ça assez éloquent, en fait.
Jérôme, pourquoi vous vouliez devenir journaliste?
Eh ben, moi, je suis rentré au CFJ de manière aussi relativement pragmatique. Je pensais qu'en fait, c'était ce que j'avais envie de faire. Et j'avais besoin de savoir comment ça marchait. Tout bonnement, j'avais aucune expérience. Contrairement à François, je n'avais jamais écrit, vraiment. Et je savais pas du tout comment on faisait un papier. J'en étais même à pas savoir comment on prend un angle pour un papier. Moi, je construisais mes papiers comme des dissertations. Et donc, ça m'a appris ça. Et j'ai pris l'école comme ça, comme un apprentissage technique, en me disant que, pour le fond, j'allais rien recevoir de particulier, que j'avais déjà fait quand même 5 années d'études avant, et je venais surtout pour un apprentissage formel. Mmh. Donc sur ce plan-là, j'ai eu ce que je cherchais, en fait.
Mais si je vous parle de John Reed, par exemple, Albert Londres, oui, quand même, oui, Albert,
voilà,
Londres.
Mais donc, enfin,
c'est un très grand journaliste américain qui a écrit, entre autres,
10 jours
qui ébranlèrent le monde. C'est le type même du journaliste engagé
ou Upton Sinclair,
John Steinbeck, voilà, etc. Mais même journalistes engagés qui ont mouillé leur chemise, qui allaient, enfin, l'espèce de super Tintin comme ça, qui était engagé dans leur époque avec Tripp et Boyau, racontant, s'engageant. On peut citer Jack London également, se gourant beaucoup les uns et les autres. Mais cet engagement-là, mais je vois que c'est des mythes de ma génération, mais plus du tout de la vôtre.
Mais c'est-à-dire qu'à mon avis,
Il y a une histoire
du journalisme. Quand on dit qu'on a supprimé la bibliothèque, ça veut dire qu'on a supprimé toute critique des médias qui peut exister à travers les livres, mais ça veut dire aussi qu'on a supprimé toute histoire du journalisme. Jules Vallès est inconnu au bataillon, Albert Londres est inconnu au bataillon, John Reed est inconnu au bataillon, de la même manière qu'aujourd'hui, des journalistes hérétiques comme Denis Robert, Serge Halimi est venu une fois pendant une journée de grève, il a été vraiment malvenu. Daniel Mermet, vous n'êtes pas le bienvenu au centre. C'est parce qu'on...
Si, je suis allé une fois.
C'était pas au centre de formation des journalistes, c'était au centre de formation professionnelle des journalistes. Il y a une distinction à faire.
Mais j'étais ravi en tout cas. Ouais. C'était très bien.
Mais,
très
bien reçu. Mais c'est vrai que on enseigne strictement le journalisme dominant. Il n'y a qu'à voir quel est le profil des personnes qui interviennent à l'école. C'est vraiment des gens, des présentateurs de radio, des personnes qui ont été rédacteurs en chef de France Soir. On nous enseigne que le journalisme dominant. Et c'est ça qui est aussi désespérant, c'est cette absence de fenêtre, d'ouverture qui pourrait laisser espérer qu'il y a une autre manière de faire son travail.
Vos réactions sur le répondeur de la base, si j'y suis, à cet entretien et cette rencontre avec ces jeunes journalistes et Serge Alimi.
France Inter.
Tout le monde ne lit pas le monde diplomatique. Heureusement qu'il y a des journaux qui ont eu le courage, hein, et puis qu'il y a des gens qui ont besoin d'informations. Mais moi, je vois des collègues profs d'histoire géographique qui avouent ne lire que Paris Match. Comment veux-tu qu'elles apprennent à leurs élèves quelque chose si elles ne s'intéressent pas, si elles ne lisent que ça? Excuse-moi, mère, mais ne pas être au courant. Hein, moi, je sais que souvent on dit, mais où t'as appris ça? Et pourtant, il y a plein de choses que je sais par Amnesty. Quand je le parle, on dit, oh, tais-toi, Monique. Toi, t'es toujours avec des histoires noires. C'est pas des histoires noires. Mais je veux voir clair, je veux ouvrir les yeux. Je veux pas mourir idiote. Hein, c'est pas possible de vivre dans un monde qu'on ne comprend pas.
Salut, Daniel. Je viens d'écouter, comme presque tous les jours, ton émission modeste et géniale. Aujourd'hui, elle était consacrée aux journalistes et tu affirmes que c'est la seule profession dont les acteurs sont irresponsables, sans service après-vente, comme tu dis. En cherchant bien, je pense que l'on pourra en trouver bien d'autres. Mais il en est au moins une, tout aussi irresponsable et bien plus dangereuse pour ceux qui en subissent les caprices et les erreurs. C'est bien sûr la magistrature, dont juges et procureurs ne rendent de compte à personne. Au revoir.
Bonjour. Au sujet de l'émission sur les journalistes, là, je voulais juste dire que fallait à tout prix aller voir ce film de Jean-Pierre Mocky, Un linceul n'a pas de poche. C'est tout à fait d'actualité, c'est tout à fait avec l'émission d'aujourd'hui, quoi. Et puis, malheureusement, ça passe pas à la TV. Voilà, ça passe pas du tout à la télé même. Allez, ciao, au revoir.
Oui, bonjour, Michel Duff, je suis journaliste à Martigues, j'ai bien apprécié votre émission d'aujourd'hui. Alors moi je voulais dire que par rapport à la situation affligeante de mes confrères de la presse nationale, moi je voudrais dire la chance que j'ai d'être un journaliste de terrain. Je collabore à Reflet, qui est le mensuel de Martigues, je suis également correspondant régional de l'hebdomadaire Le Marin, qui est un magazine du groupe Ouest France, qui est consacré exclusivement à la pêche professionnelle et au transport maritime. Et depuis 20 ans, j'ai toujours le même plaisir à être en permanence en contact permanent avec les habitants de Martigues et les pêcheurs de Méditerranée. Alors en pratiquant ce journalisme de proximité où la condition impérative est de respecter le point de vue des gens et de le situer dans un contexte, dans son contexte, j'ai beaucoup de bonheur au quotidien. À la fois le bonheur de travailler beaucoup, d'être payé relativement peu, d'avoir la garantie de rester méconnu, sauf des gens de la rue, mais j'échangerai pas ma place avec une vedette de la télé. Voilà, bonsoir et bon courage aux autres.
Voilà, Michel, journaliste heureux à Martigues, il n'est pas le seul, hein, faut quand même pas. Il y a pas mal de journalistes tout à fait heureux. Le livre de François Ruffin ne porte pas sur l'ensemble de la profession de journaliste. Il parle de la formation des journalistes dans ce centre de formation de journalistes à Paris. On le retrouve, François Ruffin, avec Myriam Gretter, Jérôme Gautret et Serge Alimi. C'est vrai que c'est souvent plus dans la question posée par le journaliste qu'on apprend quelque chose que dans la réponse qui lui est apportée par une infirmière, un ouvrier. Parfois, il y en a un, il y en a encore quelques-uns, paraît-il, en France. C'est souvent dans ces questions que se révèle l'origine sociale de ces jeunes gens issus de cette école. Quels sont les profils, on va dire, sociologiques des étudiants
On est des classes moyennes, et je ne m'en exclus pas. On est des classes moyennes, on dira, en ascension. Mais je crois que le problème, c'est que à l'intérieur de cette école, d'abord, il n'y a pas du tout de diversité sociale, c'est évident. Et par ailleurs, à l'intérieur de cette école, on nous apprend pas à aller vers vers cette diversité sociale, à rencontrer des ouvriers, des caissières. On reste relativement enfermé dans l'école, tout comme les journalistes, il faut bien le dire, restent enfermés sur leur rédaction et sortent très peu. Bon, je cite ce passage où on envoie une partie de la promotion à Outreau pour visiter le quartier des pédophiles dans le nord de la France. On a des réflexions de la part de personnes qui sont d'intervenants qui sont du Monde ou du Nouvel Observateur qui renvoient vraiment à une logique de classe, quoi. On nous dit ça puait la soupe aux choux, le pipi de chat, c'était vraiment le quart monde. Et un autre dit il y avait des obèses, des à qui il manquait des dents, on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Bon, on est dans l'ordre du racisme de classe, les goûts culinaires, les corps grossiers, l'accent vulgaire, enfin tout y passe, quoi. Et donc finalement aller dans ces HLM et à l'intérieur d'un article, la personne du Nouvel Observateur dira entrer dans ces HLM, c'est pénétrer dans un autre univers. Ben, je crois que tout est dit. Effectivement, pour les journalistes dominants, aller dans un HLM, c'est pénétrer dans un autre univers, et y compris peut-être pour nous en partie.
Jérôme Gautret, pour entrer au CFJ, c'est Bac plus 3, 4 ou 5. Voilà. On a fait Sciences Po avant, c'est votre cas ou
non, aucun de nous trois.
Ou vous avez des licences d'histoire ou des...
Oui. On a fait des études supérieures déjà longtemps avant, qui nous ont déjà structurés en fait.
Il n'y a pas beaucoup de filles d'ouvriers parmi
Il y en avait un dans notre promotion.
Voilà. Il y en a toujours un.
Sur 54.
Il doit y avoir une beurette aussi.
Un sur 54. Un sur 54, il y a 26% de la population française qui est d'origine ouvrière et à peu près 30% qui est d'origine employée.
Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que notre promotion reflète en fait ce à quoi ressemble les Bac plus 4, Bac plus 5, à l'échelle de tout l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas de fils d'ouvriers parmi les journalistes, il faudrait dire aussi qu'il n'y en a pas parmi les députés, qu'il n'y en a pas parmi les médecins, les avocats, enfin tous ceux qui font la justice, qui prennent les décisions. C'est pas le journalisme qui est comme ça, c'est qu'il y a à la limite, il y a peut-être une réflexion plus large à engager, mais disons que nous ne ressemblons pas plus à la société française, ni moins, que d'autres catégories de la population, d'autres dirigeants. Tout bonnement parce que il y a effectivement une logique de concours qui passe par un écrémage qui se produit du fait du nombre de candidats relativement tard et donc il faut pouvoir assumer des études. On est quand même quelques-uns à s'être endettés. Moi, je me suis endetté pour le faire. On n'a pas forcément non plus des parents derrière. Il suffit de... Enfin, ça arrive. Par contre, on s'en met sur le dos pour plusieurs années. Ça, c'est un autre problème. Mais ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que si le CFJ prenait des élèves à 18 ans pour leur faire une formation en journalisme, là, ils couraient encore plus le risque de les formater. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même eu 4 ou 5 années d'enseignement supérieur, certains à Sciences Po, mais d'autres à la fac, ou des parcours plus divers. François a fait de la linguistique ou des choses comme ça, qui nous permettent aussi de nous ouvrir. Et effectivement, une fois qu'on arrive au CFJ, on est déjà structuré.
L'intéressant là-dedans, c'est que ça permet de comprendre un peu le racisme social qui imprègne bon nombre de médias et qui fait qu'on ne redécouvre la classe ouvrière que pour lui imputer toutes sortes de tares supposées, le populisme, le racisme, le vote Front National, que le reste du temps, on ne s'en soucie pas. Dans la dernière édition du journal Pour lire pas lu, il y a une étude très précise sur la manière dont les accidents du travail sont relatés dans la presse française. Et alors je lis parce que les données sont quand même assez frappantes. Au cours de l'année 2000, on recense 1299 morts d'accidents du travail, tous secteurs confondus. En tout et pour tout, Le Monde consacre cette année-là 10 articles.
Le Monde, c'est le journal. Hein.
Le Monde, oui.
C'est pas la planète.
Le journal Le Monde consacre 10 articles aux 1 492 759 accidentés du travail. Les Échos 2, Le Figaro 3, Libération 10, TF1 5 sujets, Le Nouvel Observateur 0. Donc si vous comparez la manière dont on traite des accidents du travail, de la manière dont on traite la mort d'un journaliste, victime lui aussi d'un accident du travail, et qui, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, arrive à obtenir que des ministres assistent à ses obsèques, il y a tout de même une différence de traitement formidable. Patrick Bourrat est mort lors d'un accident du travail, et c'est effectivement déplorable. Mais il y a encore une fois 1500 personnes par an qui meurent d'accidents du travail et qui n'ont pas droit aux ministres, qui n'ont pas droit aux dossiers spéciaux, qui n'ont pas droit aux 5 minutes d'antenne à la radio, à la télévision. Au nom de quelle logique? Sinon une logique incestueuse qui fait qu'on s'intéresse davantage à son propre milieu qu'à un univers qui nous est décidément très largement étranger.
C'est vrai qu'on rend jamais hommage à un plombier qui meurt en installant un chauffe-eau.
Ah. Il est prudent. Le texte fondamentalement.
Et on a tort. Et on a tort. On devrait créer avocat, pas avocat sans frontières. Ça, c'est pas la peine. Ça existe déjà. Mais plombier sans frontières, c'est formidable. Et d'ailleurs, s'il y a des plombiers qui nous écoutent, eh ben, on pourrait peut-être se rencontrer et essayer de créer plombier sans frontières pour que les plombiers puissent s'exprimer et nous parlent de leurs problèmes, mais ils nous parlent aussi de leurs des accidents dont ils peuvent être victimes eux aussi, tout comme les reporters, tout comme les ces personnages très très importants qui se prêtent si aisément à la caricature, du moins si on parcourt le livre de François Ruffin, Les petits soldats du journaliste. Je dis ça parce qu'il y a des dessins quand même qui sont assez poilants dans ce livre. Vos réactions à l'émission d'hier, ça c'est la deuxième partie, vous avez compris aujourd'hui, mais hier c'était la première couche, et voilà quelques-unes de vos réactions.
Pour en revenir à l'histoire du journalisme, au bon ou au mauvais journaliste, il y a aussi une chose à faire, c'est d'aller interviewer les gens autour de nous, les couillons comme moi de la France d'en bas, là, et, parce que c'est un peu, les journalistes sont un peu dans la même merde que les politiques aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ne leur font plus confiance. Et ils ont leur pensée là-dessus, les braves gens de la France profonde sur le journalisme. Ils ont des tas de choses à dire là-dessus. Moi, j'ai souvent l'occasion de rencontrer des journalistes et souvent la presse locale, les télé et radio locales aussi, pour le boulot que je fais, de saltimbanque. Eh ben, il y aurait de quoi dire sur l'arrogance, justement, de tous des journalistes en général. Très souvent, je trouve, ceux qui détiennent les médias et la communication sont des gens très arrogants. Et c'est peut-être ça qui leur coûte cher. Voilà.
Bonsoir. Des années que je suis avec attention et plaisir vos émissions, et merci. Celle-ci fait un peu plus tilt que d'habitude. Je suis enseignante. On ne vous paye pas pour penser, m'a dit un inspecteur. Une inspectrice, pour tout dire. Je n'y ai vu que le reflet d'une dictature. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris la peur qui était sous-jacente. Penser chez beaucoup de gens peu sûrs ou trop sûrs d'eux, c'est trahir. C'est vrai, se préoccuper de l'école de journalisme est important pour qu'on se batte afin de ne pas devenir des outils à la solde de la propagande conférée aux dernières élections. J'ajouterais cependant que le fonctionnement de l'éducation nationale ne l'est pas moins important. C'est un système qui a un côté ancestral et dictatorial, qui a tendance à créer les moutons de demain, mutiques ou violents, des gens irresponsables parce qu'on ne leur aura jamais appris à être responsable, à obéir et à désobéir intelligemment, où l'autorité, la punition et le renvoi sont encore les instruments de remédiation de base. Ceci malgré tous les enseignants, il y en a plus qu'on ne pense, qui se battent pour améliorer les choses et qui récupèrent beaucoup d'ennuis.
Je pense que personne n'a encore bien pris la dimension du 21 avril, lorsqu'on sait que la moitié de la population gagne en dessous de 6000 francs, voire en dessous du SMIC, et que tous ces journalistes qui présentent, en fait, sont complètement au-dessus des réalités. Et je trouve que votre émission a été vraiment très, très, très bien faite. Et tant qu'on n'aura pas pris la mesure de la France d'en bas, je vois vraiment pas... quand on sait que les médias, en fait, doivent retranscrire la parole du politique vers le bas et du bas vers le haut, pour l'instant, en fait, c'est juste en circuit fermé. C'est ce que votre émission a bien démontré hier.
Ce qui est intéressant dans le livre de Ruffin, c'est aussi des analyses plus ou des notes, hein, parce que c'est quand même une sorte de reportage. Après tout, c'est jamais qu'un reportage. Mmh. Donc, mais sur l'événement, parler des réflexions sur l'événement, on dit l'événement qui se produit. Hein, ben, ça revient là-dessus, sur l'actu, cette fameuse actu qui se produit, qui s'impose évidemment. Quoi, il y a une sorte d'évidence de l'actu. Et vous dites un truc tout bête. Vous dites
l'événement ne se produit pas, il est produit.
Il est produit par quelque chose.
Mais je vais donner un exemple. Là, par exemple, le papier de PLPL est tout à fait dans ça. C'est-à-dire qu'on a 1500 personne qui...
PLPL, c'est pour lire, pas lu, hein, pour être explicite, il faut être très précis à la radio.
Qui est le papier de pour lire, pas lu, est très clair. Il y a 1500 accidents morts du travail chaque année, mais ça, à la limite, ça s'inscrit dans une forme de normalité.
Donc la quotidienneté n'intéresse pas le journaliste. Le journaliste passe en dehors de tout ce qui est du domaine de la quotidienneté. C'est pour ça que par exemple les ventes d'armes au tiers-monde, ça va pas intéresser a priori le journaliste, seulement s'il y a un scandale qui éclate. La manière dont les poules sont élevées en batterie, ça ne va pas intéresser non plus le journaliste parce que c'est quelque chose qui est complètement normal. Donc autour de ça, il faut créer un événement. Pareil pour la pauvreté. La pauvreté n'intéresse pas le journaliste. Moi, je me suis fait déjà renvoyer dans les cordes et je ne suis pas le seul au nom de qu'est-ce qu'il y a de neuf à propos de la pauvreté. Par contre, il va falloir créer un événement autour de ça. Par exemple, ATD Quart-Monde va créer une journée de la misère. Et ce jour-là, à l'école, mais comme au sein de toutes les rédactions, il va y avoir des ordres pour nous dire, eh ben, allez-y, allez interroger un pauvre, rencontrez un membre d'une association. Donc, lors de cette journée de la misère, les associations sont réduites à organiser des journées de la femme, journées de la misère, pour en fait intéresser les journalistes à tout ce qui est du domaine de la normalité. Alors que les journalistes ne vont plus s'intéresser qu'à l'accident.
Vous parlez aussi de l'éthique. Vous appelez ça l'éthique en toc, c'est-à-dire un discours moraliste qui vient habiller, maquiller un cynisme absolu.
Tout à fait.
On entend ça beaucoup. Enfin, c'est pas exclusif à votre école, cette école dont vous sortez, ni à la profession de journaliste, mais c'est quand même une tendance. Ça c'est très tendance, le supplément éthique.
C'est-à-dire que plutôt que de remettre en cause le fonctionnement même des médias. Par exemple, je vais donner à nouveau un exemple. On était avec un rédacteur en chef de LCI, et il y a une personne de notre promo qui propose un sujet sur le commerce équitable. Le rédacteur en chef de LCI, le commerce équitable, ça va intéresser personne, fait plutôt un sujet sur l'apéritif des Français, quels sont les apéritifs préférés des Français. Et là, oui, tu vas toucher 6 millions de téléspectateurs, les gens vont te regarder, mais ça m'intéresse pas. Mais on ne demande pas que ça t'intéresse, tu le traites. Bon, je rapporte cette anecdote lors d'un séminaire d'éthique et de déontologie, et les personnes qui sont à la tribune, dont pour le coup, le rédacteur en chef lui-même de LCI, c'est-à-dire Pierre-Luc Séguillon. Pierre-Luc Séguillon dit, ah, c'est scandaleux, c'est vraiment pas déontologique, c'est pas une manière de travailler. Mais je suis désolé. Mais si ce rédacteur en chef adjoint est devenu rédacteur en chef adjoint de LCI, c'est parce que tous les jours, il impose des sujets à l'intérieur de sa rédaction sur les apéritifs préférés des Français, plutôt que sur le commerce équitable ou la manière dont Hugo Chavez dirige le Venezuela ou un certain nombre de sujets comme ça.
Informer sur l'info, tout simplement. Investiguer sur les investigateurs, tout simplement. C'est la démarche du bouquin de François Ruffin. Et on a l'impression de toucher à un tabou tout de suite. Les auditeurs disent, ah ben vous allez pas vous faire des copains. Comme si le premier travail des journalistes n'était pas de dire comment ils travaillent, pourquoi ils travaillent, s'expliquer et non pas seulement faire semblant de douter. Soumission, pédagogie de la soumission. C'est comme ça que François Ruffin résume d'une seule formule ces deux années de passage au centre de formation des journalistes. Et c'est surtout une enquête en longueur sur cette école et sur la formation des journalistes, sur le formatage des journalistes, sur le moule à journaleux.
France Inter.
Bonjour, j'écoutais votre émission hier soir sur les journalistes. C'était édifiant. Je peux vous dire que moi-même, j'ai ma sœur qui était journaliste. Elle a fait tout le cursus scolaire de la bonne bourgeoisie de l'Ouest parisien et rentrée à l'école de journalisme de Lille. Et sa vision de voir du monde est propre à sa propre classe sociale. C'est déconcertant. Les journalistes ne sont pas les soldats de l'information, ce sont les putains de l'information. Comme dans tous les médias, c'est de la désinformation, de la pollution de l'information. Heureusement qu'il nous reste de la bonne littérature. Autrement, le reste, c'est zéro. Au revoir.
En écho à votre émission de mardi, je voudrais vous signaler une initiative de l'Université populaire et citoyenne du Puy-de-Dôme qui organise le jeudi 20 février à 20h une projection débat sur le thème de la liberté d'expression au sein des médias. Le film « Pas vu, pas pris » de Pierre Carle servira de détonateur au débat qui aura lieu ensuite entre le public et des journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision régionale. Cette soirée aura lieu à La Jetée, 6 places Michel de l'Hôpital à Clermont-Ferrand, le jeudi 20 février à partir de 20h. L'entrée est libre et que vivent tous les mouvements de résistance à une pensée molle et uniforme.
Alors, une soumission totale, une reddition face aux forces de l'argent, employer une phrase comme ça, ça semble excessif. Or, la directrice du centre de formation des journalistes déclare, selon vous, toujours, une phrase que vous avez notée dans ce livre reportage, appelons-le comme ça, elle dit, on étudie en ce moment comment se tourner à plein vers le management. Notre idée, c'est de réconcilier journalisme et esprit d'entreprise. L'ASA, on souhaite qu'elle devienne énorme. On veut en faire quelque chose de lourd, de fort, de numéro un. C'est donc une soumission totale, heureuse, militante, avec les forces de l'argent, la soumission à l'argent. Serge Halimi, on a encore un peu de temps. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé dans le temps. Est-ce que, mettons, alors soumission totale aux forces de l'argent et lutte de PLPL, par exemple, de Pourrir Palu, contre le PPA, ce que vous appelez le PPA, enfin ce que PLPL appelle le PPA, c'est-à-dire le Parti de la Presse et de l'Argent, d'accord. Mais est-ce qu'on peut faire un petit historique de ça, mettons, depuis, enfin, d'où vous voulez. Un petit historique pour nous montrer comment ça évolue. Il y a quand même un rapport permanent entre le journalisme et l'argent, entre les médias et l'argent.
Je crois que l'évolution va dans le sens d'une acceptation, d'une naturalisation toujours plus grande des contraintes commerciales, à tel point qu'on ne les questionne plus. Qu'on parle par exemple des journaux comme de marques. Vous savez que tous les responsables maintenant de presse parlent de leurs journaux ou de leurs radios comme de marques. Un peu comme il y aurait Nike, Renault, etc. Il y a la marque, on parle, François Ruffin cite ce propos dans son bouquin, on parle de la marque Le Monde. On parle aussi, comme vous le savez peut-être, de la marque Radio France, qui a des marques dérivées, France Culture, etc. C'est un des propos réguliers du PDG de cette radio. Donc, il y a une espèce d'intégration de ces normes qui fait qu'elles sont tout à fait naturelles et que l'objectif est effectivement de vendre un produit à des consommateurs, sans trop s'interroger sur ce qu'est la responsabilité du journaliste, qui, à mon sens, est toujours de dire aux gens ce qui est important. Pas forcément ce qui les intéresse, mais ce qui est important, et de rendre intéressant ce qui est important. Alors que la pratique habituelle du journalisme est de plus en plus, et ça c'est le modèle américain naturellement qui joue à plein, de rendre important ce qui est intéressant. Les gens s'intéressent à ça, et ils ne s'intéressent pas à d'autres sujets qui sont importants pour eux. Les sujets qui sont importants pour eux, auxquels ils ne s'intéressent pas, on n'en parlera pas. Parce qu'il n'y a pas d'avenir commercial si on en parlait. En revanche, les sujets qui ne sont pas importants, mais qui les intéressent, genre la mort de Lady Diana, on y consacrera tout le journal de TF1 au lendemain de son décès, sans aborder une seule autre information nationale ou internationale. On a donc tellement intégré l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur qu'on accepte en tant que journaliste, de subordonner sa connaissance du fait que ce jour-là, il s'est passé autre chose en France et dans le monde que la mort de la princesse
Serge Halimi, est-ce que c'était différent avant?
Ah, je pense que c'était différent avant d'ailleurs.
Mais avant,
la pratique qui consiste à réserver tout un journal de TF1, enfin d'un journal de télévision, à un sujet, a démarré en France avec la mort d'Yves Montand. C'est la première fois. Ça ne s'était pas produit pour la mort de Kennedy, ça ne s'était pas produit pour la mort de De Gaulle, où on annonçait d'autres informations, certes brièvement, à la fin du journal, mais avec la mort d'Yves Montand, vous avez Claire Chazal qui arrive et qui dit « Nous lui consacrerons l'intégralité de mon journal, de notre journal, pardon. Nous lui consacrerons l'intégralité de notre journal. » Et elle fera la même chose, et d'autres feront la même chose, au moment de la mort de la princesse de Galles, où le journal commence, le journal de TF1 commence à 13h, se termine à 14h32, et il n'y a rien d'autre comme information ce jour-là que la mort de la princesse de Galles. Eh bien, ça, c'est un changement.
Voilà, merci à tous, Serge Halimi, Myriam Greuter, Jérôme Gautret et François Ruffin, donc l'auteur de Les Petits Soldats du Journalisme aux éditions des Arènes. Technique aujourd'hui, Bertrand Durand et Julien Dumont. Assistant Joël Levert, le répondeur c'est Christophe Imbert qui en a la charge. Le numéro c'est 01 56 40 37 37. Coye Nguyen, assistant de réalisation, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et ma foi assez géniale grâce entre autres à vos infos messages laissés sur le répondeur. On se retrouve demain à 17h pour la... Bah, si j'y suis, les 18h sur France Inter. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut!